Donc Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il saurait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Rabbi, parle !» répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle, elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Et il dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Alors, je vais être honnête avec vous, la première fois que j'ai lu ce passage, j'ai absolument rien compris. J'ai compris qu'il y avait un pharisien qui s'appelle Simon, qui dit à Jésus de rentrer dans sa maison. J'ai compris que tout d'un coup, il y a une femme dans cette maison qui se met à pleurer sur les pieds de Jésus, qui fait des bisous aux pieds de Jésus. Je ne sais pas comment elle est entrée. Et puis après, il n'y a plus Jésus et Simon, mais il y a aussi d'autres gens. Et Jésus, il dit, « Simon, tu m'as invité, tu ne t'es pas bien comporté, mais elle, elle s'est bien comportée, elle a pleuré sur mes pieds, elle m'a fait des bisous aux pieds. » Après, il dit qu'il aurait dû lui verser de l'huile sur la tête. Et bref, j'avais l'impression d'être dans un rêve. Il y avait tout qui arrivait comme ça, je ne comprenais pas. En fait, je pense qu'il y avait un fossé culturel lors de ma première lecture entre ce passage et moi. Donc, ce que je vais faire, avant de rentrer dans le fond du message, je vais reconstituer un petit peu culturellement ce qui est en train de se passer pour qu'on comprenne mieux notre texte. Donc, on va essayer d'être avec Jésus, d'être avec cette femme, d'être avec les invités. Et de comprendre le contexte culturel et social. Alors déjà, on est où ? En Luc, chapitre 7, verset 11, on apprend que nous sommes dans la ville de Naïn. Cette ville a été construite 500 ans plus tôt, et c'est en Galilée. C'est une ville multiethnique, il y a beaucoup de cultures qui se croisent, avec des quartiers très différents, et c'est une ville assez riche, prospère, qui est connue pour sa production de tapis. Et aujourd'hui encore, cette ville est connue pour sa production de tapis. Et si vous voulez, vous pouvez aller sur le site de la ville et commander des tapis. Et dans cette ville, ça fait longtemps que les Juifs, ils attendent un nouveau Messie. Enfin, un nouveau Moïse. Ils attendent le Messie promis par les Écritures. Quelqu'un qui va les sauver. Et ils ont eu plusieurs pistes sur ce sauveur qui doit arriver, ce Messie, loin de Dieu. Mais à chaque fois, en fait, c'est une fausse piste. Et ils attendent un Messie qui va venir les délivrer de l'oppression, parce que faut savoir qu'il y a le gouvernement romain qui s'est beaucoup étendu, qui a colonisé beaucoup de terres, et Naïn, c'est une terre colonisée par le gouvernement romain, et les Juifs attendent ce Messie qui les libérera du joug du colonisateur. Alors il y a pas mal d'histoires, il y a des petites révoltes, particulièrement. Pas très longtemps avant notre passage, il y a 2000 juifs qui vont être crucifiés à Naïn. parce qu'ils vont refuser de payer les impôts qui sont demandés par Rome. Et puis encore quelques années plus tard, il y a Jean-Baptiste qui va arriver, qui va prêcher la repentance, qui va annoncer Jésus le Messie. Et puis Jésus va arriver dans cette ville. Donc Jésus est dans cette ville, à Naïn. Et puis là, on a une maison avec Simon le pharisien qui invite Jésus dans sa maison, au verset 36. Alors, qu'est-ce que cette maison ? Déjà, les Sadducéens étaient très riches, mais les pharisiens, ils étaient beaucoup plus modestes. En général, ils étaient commerçants ou artisans. Et ils avaient des petites maisons. C'était des maisons qui comportaient une seule pièce, comme un gros cube. Pas de fenêtre et pas grand-chose dans la maison. Donc on avait cette maison et on avait aussi le toit. Le toit, il était plat, très très légèrement incurvé pour que l'eau elle coule, mais il était plat. Et il y avait une pièce sur ce toit en forme de rectangle d'à peu près en moyenne 3 mètres sur 4 mètres, 3 mètres sur 5 mètres, qu'on appelle la chambre haute. Donc c'est là que les disciples, au début de Actes, ils sont venus prier. Et cette chambre haute, c'est ce qu'on appelle l'auberge. C'est la chambre pour les invités. Donc quand des gens viennent, on les loge dans cette chambre haute. Notamment la naissance de Jésus, quand l'auberge est pleine, c'est que les gens sont invités déjà dans cette chambre haute. Et du coup, on a la maison. Pas de fenêtre. Donc on a une cuisine, forcément. On a des tapis sur lesquels on s'étend pour dormir. On peut aussi se ramener une petite couchette portable. C'est un petit lit, après on le plie, on le range, puis on le ressort pour dormir. Il y a des instruments de travail et surtout il y a des animaux. Donc, la maison c'est une seule pièce. Et puis il y a une partie de cette pièce, on va creuser le sol. On va creuser le sol. Et c'est là que vont vivre les animaux. C'est là aussi qu'est né Jésus, dans une mangeoire. Donc on a des nattes, des coussins, quelques vases d'argile, un petit coffre. Et on a en général une grande lampe, parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Et cette grande lampe, en fait, elle repose sur quelque chose qu'on appelle le boisseau. Donc le boisseau, c'est une sorte de seau dans lequel on peut mettre des choses pour transporter. Et cette lampe, on la pose sur le boisseau. Et des fois, on s'en sert de table aussi. Donc on a un petit moulin pour moudre le grain, un peu plus grand qu'un moulin à café, des outres pour mettre le vin, bien sûr on a un balai, parce que c'est très poussiéreux dans cet endroit du monde. Et un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Alors, on voit où est Jésus dans la ville, on voit où est Jésus par rapport à la maison. Maintenant, le repas. Il faut savoir que quand il est écrit « Jésus entra dans la maison », on ne parle pas forcément du fait qu'il est rentré, il est passé par la porte, il est arrivé dans la salle à l'intérieur. La maison, ça englobe toute la famille qui l'invite. Et les repas, ils n'avaient pas lieu à l'intérieur, ils avaient lieu dehors. Et c'était une culture où la plupart des gens vivaient énormément dehors. Et en général, ils étaient à l'intérieur pour dormir. Des fois pour travailler un petit peu. Donc le repas, il se déroule ni dans la chambre haute, ni dans la pièce principale, mais dans la cour de la maison, ouverte à tous, et donc en public, à la vue de tout le monde, des commerçants, des voisins, des enfants qui jouent, ou pas. Et c'est pour ça que la femme pécheresse, elle va pouvoir venir facilement, parce que c'est en plein air. Alors quand Jésus il entre chez Simon, là c'est midi, c'est le repas principal. En général, il y avait le premier repas le matin. C'est pendant ce repas que Jésus, par exemple, il s'est fait accuser de ne pas s'être lavé les mains. Et puis ensuite, on avait le repas principal à midi. En fait, ce repas principal à midi, ça s'appelle le dîner. Et le matin, ça s'appelle le déjeuner. Et seuls les invités au repas mangent. Donc on va effectivement inviter Jésus, il a certainement invité d'autres personnes. Mais n'importe qui peut venir assister au repas. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait quelque chose, un concept de maître et de disciple. Donc ça ne s'applique pas qu'à Jésus. Il y avait énormément de philosophies différentes. Et il y avait énormément de maîtres dans ces différentes philosophies qui prêchaient en public et qui pouvaient être invités pour avoir des discussions. Il faut savoir que du coup, Simon le pharisien, Jésus en tant que rabbin, en tant que maître qui enseigne les Écritures, il a invité aussi pour débattre avec lui, pour discuter en public, et n'importe qui dans la ville peut venir. Et d'ailleurs, le bruit court, hein. En général, plus la personne est connue, plus on dit « Hey, il y a Jésus chez Simon, venez voir !» Et il faut savoir que Jésus, il a fait quand même pas mal de choses avant ce moment. Il a commencé à faire des miracles, il a changé l'eau en vin à Capernaum, il a prêché dans diverses synagogues, il s'est passé des choses et son nom, il commence à être pas mal connu quand même. Donc ces gens, ils entendent qu'il y a Jésus, ils disent « Oh, on va venir voir !» Et le repas, c'est très différent de la manière dont nous on mange, bien évidemment. Il n'y avait pas de chaise, déjà. Les invités s'allongeaient sur des coussins et ils prenaient appui sur leur coude. Coude gauche, important. Et du coup, quand on venait manger, admettons, on est à la place de Jésus, on rentre dans la cour et là, normalement, Simon... Il doit nous ramener quelque chose pour nous laver les pieds, parce que comme je vous ai dit, c'est très poussiéreux. La plupart, ils marchaient en sandales ou pieds nus, tout le temps à l'extérieur, donc on ramène beaucoup de poussière. Et comme on mange, il faut nettoyer les pieds. Et puis Simon, il doit le saluer aussi, l'accueillir. Avec un baiser de salutation. Ensuite, les invités, ils se lavent la main avec laquelle ils vont manger, la main droite. La main gauche, elle est utilisée pour d'autres choses. Et chacun rend grâce, séparément, à voix basse. Et Simon, normalement, il est censé faire une prière d'ouverture du repas, comme c'est donné dans Deutéronome. À un moment, il est dit... avant chaque repas, tu remercieras ton Dieu. Et puis on commence à manger. Et quand on veut honorer son invité, on lui met de l'huile d'olive sur la tête avec des herbes aromatiques pour qu'il sente bon. C'est une manière de bien recevoir. Et puis après, ça m'arrivait pas mal de fois de manger comme ça. On a mené le pain. Et on amenait la portion de nourriture qu'on allait mettre sur le pain. Moi, j'appelle ça la sauce, comme la boule et la sauce. Donc, on avait le pain, on avait la portion. Et on mangeait avec les doigts. Et il y avait un plat de sauce. Et le pain, on le trempait dans la sauce et on mangeait comme ça. Donc, j'espère que maintenant, vous voyez bien la ville, la maison, le repas. Mon but, c'est qu'on puisse être à cet endroit avec Jésus, qu'on puisse voir la scène, qu'on puisse sentir les odeurs, voir à peu près comment la maison elle est faite, comment ils sont en train de manger, qu'on ait vraiment la scène, que ça soit quelque chose de normal pour nous. Parce que quand j'ai lu ce passage, c'était complètement fou, je comprenais rien. Et on a vraiment une scène de la vie quotidienne comme on a chaque jour. Alors à travers ce texte, aujourd'hui, on va voir dans un premier temps que la vision qu'on a de notre péché, c'est cette vision qu'on a de notre péché qui va montrer quel amour on a pour Jésus. Et si on veut mieux aimer le Christ, alors ayons une vision juste de notre péché. Et dans un second temps, nous verrons que cet amour que nous portons à Jésus, il n'existe que parce qu'il est le fruit de la grâce que Jésus nous a fait, parce qu'on bénéficie d'une grâce. Et on verra dans le texte quelle est cette grâce. Et je ne sais pas vous, mais moi, je suis ici ce matin en particulier parce que je désire aimer Dieu de tout mon cœur. Et Et je pense qu'ici, il y a d'autres personnes ce matin qui sont là parce qu'ils veulent aimer Jésus ou parce qu'ils aiment Jésus. Peut-être que d'autres sont là pour d'autres raisons, qui peuvent être très nombreuses et légitimes. Et on peut chercher beaucoup de moyens d'aimer Dieu. On peut même écrire des livres, par exemple, manière d'aimer Dieu, par exemple. On peut aussi se demander pourquoi est-ce qu'on n'aime pas assez Dieu. Ça m'est arrivé souvent. Je me pose régulièrement cette question. Comment mieux aimer Dieu et pourquoi est-ce que mon amour est si limité? Et puis il y a d'autres personnes qui pourraient se demander, mais pourquoi est-ce que je devrais aimer Dieu? C'est la question de base. Et le texte qu'on a lu, il répond à cette question. Il nous dit pourquoi on doit aimer Dieu et pourquoi on doit aimer Jésus-Christ. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule réponse dans la Bible, mais c'est une réponse principale et importante dans notre relation à Dieu. Jésus, c'est la preuve de l'amour que Dieu nous porte, et c'est uniquement en Jésus qu'on peut rendre à Dieu cet amour. Et pour réfléchir à ce thème, on a deux personnages, on a Simon le pharisien et la femme pécheresse. Et ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va prendre Simon le pharisien, et ensuite on ira voir cette femme pécheresse. Et Simon le pharisien, il va avoir une attitude vis-à-vis de Jésus. Et cette attitude, elle est loin de refléter l'amour qu'il pourrait lui porter. Alors, je ne vais pas dire qu'il est mal intentionné, parce que le texte ne nous le dit pas, même si c'est possible, mais il est très indifférent à l'égard de Jésus. Et il ne lui témoigne aucune marque de respect, aucune marque d'affection. Et cette attitude, en fait, le texte va nous dire qu'elle est très liée à la vision que Simon a de son péché. Alors Jésus va lui expliquer en racontant une petite histoire. C'est pas une parabole, c'est juste une petite histoire. Et la femme pécheresse, elle, on verra qu'elle a une attitude complètement différente envers Jésus, hein, mais qui va être très mal interprétée par Simon. Et la femme pécheresse, elle est pleine d'un amour débordant vis-à-vis de Jésus. Et cet amour débordant qu'elle a pour lui est aussi très intimement lié à la vision qu'elle a de son propre péché. Alors, il faut savoir que la manière dont Simon a accueilli Jésus, en ne lui faisant pas le baiser de salutation, en ne l'honorant pas avec cette huile aromatique, en ne lavant pas ses pieds, c'est un peu comme si j'invitais Lala chez moi. Il arrivait chez moi, je lui laissais avec ses sacs et ses manteaux, et puis je lui disais pas bonjour, et puis je me posais devant la télé, et je faisais ma vie. Alors il dirait, mais il m'invite, mais il me laisse comme ça, tout seul, qu'est-ce qui lui arrive? Ben, c'est à peu près ce qu'il pourrait ressentir, c'est ce que pourrait ressentir Jésus ou quelqu'un d'autre en ayant accueilli comme cela, en étant accueilli comme cela. Alors verset 36, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Je ne vais pas dire que tous les pharisiens sont les ennemis de Jésus. Il faut savoir que beaucoup des opposants à Jésus, et en particulier ceux qui ont essayé de le tuer, étaient sadducéens. Les pharisiens et sadducéens, c'est deux classes religieuses dans le judaïsme. Les pharisiens, ils s'occupent de tout ce qui est synagogue, enseignement, et les sadducéens vont plus s'occuper de tout ce qui est temple et sacrifice. Et c'est les deux courants principaux juifs, avec des petites différences. Donc, même si je ne vais pas dire que tous les pharisiens sont les ennemis de Jésus, il faut quand même savoir que la relation entre Jésus et les pharisiens est très particulière. Elle est assez conflictuelle. Et les pharisiens, ils accordaient beaucoup d'importance à leur propre justice. Ils pensaient être meilleurs que les autres parce qu'ils étaient du sang d'Abraham, directement. Et ils se considéraient sans péché parce qu'ils accomplissaient les rites et les lois donné par Dieu à Moïse. Et Jésus, il parlait durement aux pharisiens. Il leur disait, c'est pas parce que vous faites ou êtes cela que votre cœur est juste devant Dieu. Une expression un peu plus actuelle, on dirait, Jésus disait aux pharisiens, vous avez beau nous faire croire que vous êtes purs avec toutes vos prières, vos sacrifices et vos cultes, moi je sais que votre cœur il est pourri à l'intérieur. C'est ça qu'il leur disait Jésus. humiliez votre cœur devant Dieu. Et c'était déjà les messages des prophètes dans l'Ancien Testament. Et certains pharisiens étaient touchés par ce message et suivaient Jésus, mais d'autres pharisiens le prenaient mal et ressentaient beaucoup de colère, voire de haine, et cherchaient parfois à pousser Jésus à la faute pour le confondre. Et on a vu quelques épisodes où ils cherchent à piéger Jésus dans des prédications. Jésus va venir prêcher des choses. Ils vont lui dire, oui, mais toi tu fais ça. Jésus, il va faire des guérisons le jour du sabbat. Ils vont lui dire, mais tu es en train de bafouer la loi. Quand il va manger, il ne va pas se laver les mains, pareil. Les sadducéens vont même le pousser à la faute en lui posant une question piège théologique. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que Simon, pharisien, invite Jésus à manger chez lui, malgré les relations conflictuelles entre les pharisiens et Jésus. Donc, comme je vous ai dit, ça se fait beaucoup à l'époque hein, d'inviter un enseignant, sachant que Jésus est un rabbin, un enseignant. Et peut-être bien que Simon voulait le piéger, peut-être bien aussi que Simon voulait en apprendre plus sur cet homme dont tout le monde parlait. On n'est pas là pour décider à la place de Simon, c'est mobile. Le texte ne nous dit pas, mais ce qu'on sait, c'est que Simon l'a invité à manger. Donc on continue. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, et les oignit de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il saurait que c'est une pécheresse. Donc on voit que le pharisien, il est complètement choqué de ce qui se passe chez lui. Il voit cette femme qui est connue pour être une mauvaise femme. Alors on nous dit que c'est une femme pécheresse, mais on ne nous dit pas en quoi elle est pécheresse. Il y a certaines versions, comme la version du Sommaire par exemple, qui sont des explications de texte qui vont dire la prostituée. Mais en grec, c'est pas forcément une prostituée. Une femme pécheresse, ça peut aussi être une femme de berger, par exemple. C'est bizarre, mais c'est considéré comme une femme pécheresse. Ou une prostituée aussi, ou plusieurs autres choses. Mais cette femme qui est connue pour être une femme de mauvaise vie, il faut savoir que les pharisiens, ils avaient décrété que toute une partie du peuple, c'était des gens de mauvaise vie. Et ils avaient même donné un nom à ça, c'était une classe sociale. Et en gros, tous ceux qui n'étaient pas pharisiens étaient des gens de mauvaise vie, en fait. Donc Simon, il a cette femme chez lui, dans sa cour. Il est choqué. Et il est choqué parce qu'il voit cette femme arriver de je ne sais où et de se comporter avec Jésus comme une femme ne doit pas, ne veut pas et ne peut pas se comporter avec un homme. On va voir ça plus tard, mais tout ce que cette femme pécheresse, tout ce qu'elle a fait, c'est tout ce qu'une femme ne peut pas faire en public. Et comme Jésus la laisse faire, Simon lui fait la réflexion suivante. Hein, si cet homme, c'est le prophète qu'il prétend être, comment est-ce qu'il ne peut pas savoir que cette femme, c'est une femme de mauvaise vie? Il laisse venir cette femme faire tout, n'importe quoi, il ne dit rien. Peut-être que Jésus, en fait, c'est un charlatan. Et Simon le pharisien, en fait, il ne comprend pas que cette femme... elle est en train de témoigner énormément d'amour envers Jésus. Et Jésus, il sait très bien ce que le pharisien pense. C'est pour ça qu'il va lui raconter une petite histoire. Et il va le faire à la manière moyen-orientale. Alors nous, en France, on a une manière de penser qu'on a héritée de la culture grecque. C'est thèse, antithèse, synthèse. Au Moyen-Orient, ils ont une autre manière d'argumenter. Donc je vais vous donner un exemple. Par exemple, je rentre dans une exposition, je vois deux tableaux qui m'intéressent. Alors, culture grecque ou culture française? Si j'aime le... admettons, je suis le marchand d'expo, il y a quelqu'un qui vient, il voit deux tableaux, il aime les deux tableaux, et moi je vais voir cette personne et je lui dis, donc manière grecque, si tu aimes le premier tableau, achète-le. Si tu aimes le second tableau, achète-le. Conclusion, si t'aimes les deux tableaux, achète les deux tableaux. Et Paul, il va argumenter de cette manière à plusieurs reprises. Paul, il a les deux manières. Des fois, il argumente de la manière grecque et des fois de la manière juive. Et il peut s'adapter, et c'est ça qui est génial avec Paul. Donc maintenant, manière juive et en général moyenne-orientale. Donc je suis le maître de l'expo, je vais voir la personne qui est intéressée par les deux tableaux et je lui raconte une petite histoire. J'ai connu une femme qui avait deux enfants, Trésor et Cadeau. Un homme est venu lui demander lequel de ses deux enfants elle préférait. C'est la manière moyenne-orientale. Sous-entendu, achète les deux. C'est la même conclusion. Si tu ne peux pas choisir entre l'un ou l'autre, achète les deux. Et je prends le temps de vous raconter ça parce que dans la Bible, on rencontre ces deux manières de penser. Et c'est important de prendre en compte, quand on lit la Bible, les différentes manières de penser. Donc quoi qu'il en soit, Jésus raconte sa petite histoire pour lui faire prendre conscience de quelque chose. Donc versets 40, 41, 42, 43, Jésus prit la parole et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Alors, qu'est-ce que Jésus est en train de dire à Simon ? Il est en train de dire à Simon que la femme pécheresse, elle comprend la dette qu'elle doit et elle comprend que Jésus est venu enlever cette dette. Et la dette, c'est le péché. Et si Simon avait conscience de l'ampleur de son péché, à quel point il est injuste devant Dieu, à quel point il est coupable de péché, et si Simon le pharisien avait conscience que rien de bon ne peut sortir de lui, parce que la bonté, elle sort de Dieu, alors il aurait compris l'histoire que Jésus est en train de lui raconter. Parce que c'est pas un mystère, hein. Jésus lui raconte une histoire totalement compréhensible, avec des éléments de sa vie quotidienne. Et intellectuellement, Simon comprend tout à fait ce que Jésus lui raconte. Spirituellement, que c'est un peu compliqué à comprendre. Et si Simon avait eu conscience de cette dette qu'il a envers Dieu, et s'il avait conscience que Jésus, le Fils de Dieu, fait homme, Dieu parmi les hommes, était venu souffrir pour cette dette, souffrir toute la violence du péché, pour lui, par amour, si Simon avait conscience que Jésus, il s'est sacrifié, faut savoir que Jésus, il a même transpiré du sang, hein, devant l'effroi et la couleur, l'effroi et la douleur causée par le péché. Jésus, il a transpiré du sang. Si Simon, il avait conscience que cette dette, elle est tellement immense que Jésus a dû mourir, que Dieu nous a remis cette dette à travers la venue de Jésus, sa mort, sa résurrection, ce que Jésus annonce à ses disciples. Si Simon, il avait conscience de tout ça, de son propre péché tel qu'il est devant Dieu, et s'il avait confiance en ce sacrifice et cette souffrance vécue par Jésus pour le délivrer de la puissance du péché et pour le rendre libre de cette dette, alors Simon serait lui aussi en train de pleurer avec la femme pécheresse aux pieds de Jésus, et il serait pas en train de se soucier ni des codes, ni du regard des gens. Sauf que Simon le pharisien, il n'a pas conscience de son péché. Simon le pharisien, lui, ce qu'il voit, c'est le péché de cette femme. Cette femme pleine de péchés qui est venue dans sa maison, péché devant ses yeux, au pied de Jésus. Et à l'époque, les femmes, elles ne venaient pas comme ça parler à un homme, déjà, en public. Bon, elles ne parlent pas, mais elles disent quelque chose de l'ordre encore plus intime qu'une discussion. Jamais une femme n'aurait osé toucher un homme en public. Et cette femme-là, elle était connue par la société pour être une sale pécheresse qu'il faut fuir, pour ne pas être corrompue par le mal qui se dégage d'elle. C'est comme ça que Simon y pense. Il ne se dit pas que c'est lui l'horrible pécheur. Il ne voit pas son manque d'amour, ni son arrogance, ni sa suffisance. Et cette femme, elle pleure sur les pieds de Jésus, elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Et le cheveu d'une femme, c'est vu comme quelque chose de très 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 intime dans cette culture-là. Et encore dans certains endroits du Moyen-Orient. C'est sexualisant, hein, clairement. Et Simon le pharisien, lui, il a témoigné ni respect, ni amour envers Jésus. Donc on continue, versets 44, 45 et 46. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. Comme j'expliquais tout à l'heure, la coutume de respect voulait qu'on honore un invité en lui amenant de quoi laver ses pieds, en adressant un baiser de salutation et en oignant d'une huile aromatique. Oindre, ça veut dire mettre sur la tête. C'est la bonne manière de recevoir. Et ce que je vous ai raconté tout à l'heure, de comment, dans l'histoire que j'ai inventée, j'ai accueilli Lala chez moi. C'est comme ça que Simon a accueilli Jésus, qui va mourir atrocement sur la croix afin de prendre sur lui le péché de Simon pour le délivrer à travers la mort et la résurrection 3 jours plus tard. La résurrection, ça montre que la vie a vaincu le péché, hein, et que la vie a vaincu sur la mort. Et Simon le reçoit comme un moins que rien, sans amour, sans honneur, avec mépris. Et si Simon... Si Simon avait compris l'ampleur de son péché, il aurait su témoigner de l'amour. Et c'est pour ça que je vous dis que pour mieux aimer Christ, nous devons avoir conscience de notre péché, d'une manière juste, devant Dieu. Et ce texte, il me reprend parce que des fois, je ressemble à Simon. Ça m'arrive. Et en fait, pendant plusieurs années, je ne suis pas né de nouveau depuis très longtemps, mais toutes ces premières années de vie avec Dieu, j'ai beaucoup, beaucoup prié à Dieu, augmente mon amour vis-à-vis de toi, aide-moi à t'aimer. Et en fait, je lui demande ça comme s'il me le doit, cet amour, alors que c'est moi qui lui dois tout. Et Dieu, il m'a remis une dette tellement immense que c'est impensable que je puisse pas juste l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes pensées. Même pas à demander, en fait. Et si nous voulons grandir dans l'amour que nous témoignons à Christ, nous devons grandir dans cette vision qu'on a de notre péché. Et plus on aura une vision juste, selon Dieu, de ça, de notre péché, plus on aura une vision juste de notre amour envers nous. Alors maintenant qu'on s'est penché sur l'exemple de Simon, on va regarder l'exemple de la femme pécheresse, à savoir que l'amour qu'on porte à Jésus, c'est le fruit de la grâce qu'il nous fait. On reprend le texte au début, verset 37-38. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum, et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa, et les oignit de parfum. Alors la femme pécheresse, elle a entendu dire que Jésus il est en train de manger chez Simon, et elle s'est empressée de venir. Elle est conduite dans la ville comme une femme de mauvaise vie. On ne dit pas en quoi. Et normalement, le pharisien n'a aucun type de relation avec ce genre de personne et elle n'a rien à faire à venir chez Simon. Et le fait que cette femme vienne, on va dire, dans la domiciliation de Simon, c'est une honte déjà pour Simon, le pharisien, et c'est une honte pour elle-même. J'espère que maintenant on comprend que la femme pécheresse, elle a compris de quelle dette Jésus l'a délivrée. Et du coup, la seule importance pour elle, c'est de venir témoigner sa reconnaissance. De venir témoigner de l'honneur et de l'amour envers Jésus. Et Jésus, du coup, comme on a vu, il est allongé sur son pouce gauche. Il a les pieds qui touchent le sol. Il est autour du repas. Il y a les invités. Et elle arrive, elle s'approche de lui par derrière, dans son dos, elle surgit au milieu de nulle part, et elle tient dans ses mains un vase de parfum. Et là, elle se met à pleurer. Et elle pleure tellement qu'elle mouille les pieds de Jésus. Imaginez, je ne vais pas vous le mimer, mais elle pleure à chaudes larmes, extrêmement. Et elle verse tellement de larmes qu'elle va utiliser, elle va devoir utiliser ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Ça veut dire que là, on est dans quelque chose qui est trop grand pour qu'on se soucie de détails embarrassants. Parce que là, des détails embarrassants, il y en a beaucoup pour cette femme. Elle embrasse les pieds de Jésus, elle y verse le parfum. Elle fait exactement tout le contraire de ce qu'une femme peut faire dans cette société. Elle est très démonstrative dans ses émotions, alors qu'ils sont en train de manger. au pied d'un homme qu'elle ne doit pas approcher. Elle essuie avec ses cheveux alors que c'est de l'ordre du très intime. C'est illégal, par exemple, de s'étacher les cheveux en public. Elle touche les pieds, elle embrasse les pieds. Mais ce qu'elle fait, ça a un sens. Cette femme, elle est en train de révéler son profond regret pour la vie qu'elle a menée, pour les péchés qu'elle a commis. Et dans le fait d'embrasser les pieds de Jésus, cette femme, elle est en train de lui adresser une requête, à savoir le pardon. Et elle montre également sa soumission, son affection, son obéissance et sa révérence envers Jésus. Alors à cette époque, les jeunes femmes recevaient un vase d'albâtre au fur et à mesure de leur vie, avant qu'elles se marient. Petit à petit, le vase était rempli de parfum. Et c'était un parfum qui coûtait très très cher. Et jusqu'au jour du mariage, elle gardait ce vase dans lequel on mettait ce parfum très cher. Et alors, lorsqu'elle se mariait, le parfum était répandu dans la maison des mariés. Donc cette femme, elle n'a pas uniquement versé du parfum sur les pieds de Jésus. Parfum qui coûte cher. Elle a versé le symbole de ce qu'elle était censée garder pour sa vie maritale. C'est ce qu'une femme doit garder pour se marier. C'est très important. On doit avoir ce vase au moment du mariage. Et c'est très fort parce qu'en fait, elle est vraiment en train de reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur. Elle lui dit qu'elle désire suivre ses pas. C'est vraiment un engagement qu'elle est en train de faire. Et nous savons qu'on a cette image de l'épouse et de l'époux entre Christ et l'Église. Et cette femme, elle ne parle pas, mais tout ce qu'elle fait, ça dit énormément de choses. Et elle a eu le courage de venir jusqu'à Jésus, complètement brisée. Et si elle abandonne tout à Jésus, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle a compris ce que Simon n'a pas compris. Verset 44 à 48. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, les a essuyés avec les cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Je vais relire le verset 47 parce qu'il est magnifique. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et en même temps, Simon, qui est un respectable pharisien, qui ne se considère pas particulièrement comme un pécheur, il n'a pas grand-chose à se faire pardonner, en fait, du coup. Et celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Donc comme on l'a vu dans la petite histoire que Jésus a racontée à Simon, il est vraiment question ici de l'amour de la part de celui qui était endetté envers celui qui a annulé cette dette. Et ça signifie que l'amour qu'on a de Jésus, c'est une conséquence directe de la grâce qu'on a reçue de lui. La grâce, c'est par exemple, je suis en prison parce que j'ai tué quelqu'un. Donc j'ai été condamné à 20 ans de prison. Et au bout de 3 ans, il y a Jésus qui vient dans ma cellule. Il dit, vas-y, je reste dans ta cellule à ta place, je vais faire les 17 ans restants et toi, t'es libre, tu peux y aller. Ça, c'est la grâce. La femme pécheresse, elle a placé toute sa confiance en Jésus, elle a tout abandonné à Jésus. Elle est prête à le suivre parce qu'elle sait que son péché, pour elle, c'est une dette infinie. Et que Jésus, c'est celui qui l'a délivré de cet esclavage, de cette dette qui n'aura jamais de fin. Et son amour, il vient de ce qu'elle sait. Elle sait ce que Jésus est venu faire pour elle. Elle aime Jésus de tout son cœur. Elle est pardonnée de ses péchés. Et cela uniquement parce qu'elle a mis sa foi en cette grâce qui lui est proposée. Et l'évangile, c'est une folie. Il y a un passage dans 1 Corinthiens, il me semble, où il est dit « Folie pour les Grecs, et c'est pas blasphème pour les Juifs, mais c'est l'idée. » « Et en même temps, cette folie, elle est très simple. Mettre notre foi en cette grâce que Jésus nous a faite. Et Jésus nous dira, tes péchés sont pardonnés. Et les gens autour de nous, ben, ils vont se dire en eux-mêmes, avec le verset 49, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Et moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont pris pour un fou. Hein, quand... Alors moi, naturellement, Jésus est mort, je suis pécheur, Jésus est mort, il a pris le péché sur lui à ma place, il a ressuscité, maintenant je suis né de nouveau, je vis éternellement avec Jésus, je l'aime, il m'aime, je lui parle, les gens ils me prennent pour un fou autour de moi. Moi je connaissais aucun chrétien avant de me convertir. Et pourtant, c'est très simple. Avoir confiance en cette folie, en fait. C'est une histoire complètement folle, surnaturelle. Jésus nous a sauvés, nous a libérés de l'esclavage de ce péché, et nous, on a juste à mettre notre foi là-dedans. Et peut-être qu'autour de nous, les gens vont se dire, mais c'est qui celui-ci qui a pardonné même leur péché à cela? Mais Jésus... Comme il a dit à la femme pécheresse en verset 50, il nous dira, ta foi va sauver, va en paix. Alors, j'ai pas spécialement d'application concrète à vous donner, genre, quand vous rentrez chez vous, faites ceci ou faites cela. Mais ce que je veux faire pour conclure, c'est avant tout demander au Saint-Esprit de convaincre chacun de nous, déjà à quel point nous sommes remplis de péché, et à quel point ce péché vient de nous. Alors moi, bien sûr, je veux refuser ça, hein. Je suis pas d'accord, déjà j'ai pas demandé à être pécheur. C'est la faute d'Adam si je suis né comme ça, moi j'ai rien demandé. Où est la justice si j'ai pas le choix? Dieu il est souverain en plus, alors s'il veut que je sois pas pécheur, il le fait, je suis pas pécheur. Donc moi je pense toutes ces choses, hein. Ça m'arrive de penser toutes ces choses, de penser que c'est injuste. Et c'est pour ça que je veux demander avant toute chose que le Saint-Esprit convainque chacun de nous que nous sommes bel et bien pécheurs, que ce péché il vient de nous-mêmes. Parce que la Bible nous le dit. Elle nous dit qu'on a hérité de ce péché biologiquement, mais aussi que nous décidons de pécher. Et je veux aussi demander au Saint-Esprit de nous aider à nous focaliser sur cette grâce que Dieu nous a faite, qu'il n'était pas obligé de faire. Cette grâce qui est la preuve de son amour, de cette dette qui est annulée à la croix. Et en fait, en préparant cette prédication, j'ai été un peu saisi par l'horreur du péché que j'ai en moi, parce que je me suis mis à essayer un peu de contempler ce péché. Mais après, je me suis mis à contempler cette grâce que Dieu m'a fait. Et autant je me suis dit, mais quelle horreur de ce péché en nous, mais alors quelle grâce en Dieu qui est éternel, qui est sans limite, qui est sans fin. C'est une grâce qui dépasse tellement loin le péché. C'est une grâce qui détruit le péché en une seconde, comme ça. Et c'est une grâce qui a déjà vaincu le péché, qui a déjà vaincu la mort, qui a déjà vécu Satan. Et la grâce de savoir que Dieu nous aime, qu'on peut l'aimer en retour, qu'on a le pardon de nos péchés et qu'on a un accès auprès de lui. Et comme je vous ai dit, ça fait des années que je demande à Dieu de m'aider à l'aimer. Et cette semaine, je pense que Dieu a répondu à cette prière. Et il m'a répondu, regarde bien l'horreur et l'ampleur de ton péché, tu viens te prosterner à mes pieds et admire la toute-puissance de ma grâce. Alors, tu m'aimeras. Je vous remercie d'avoir écouté.